Chapitre 3e. Maintenant, le train emportait Juliette vers Chantilly. Juliette n'avait pas lu Sylvie. Elle n'avait vu aucun Corot, aucun Daubigny. Elle ne savait pas que l'Île-de-France est une île que bat la France, un morceau d'alluvion vis-à-vis duquel l'Orléanais, la Beauce, la Brie sont des mers orageuses. De la portière, elle constatait bien le jeu habituel de la locomotive et de l'horizon, mais elle ignorait qu'aujourd'hui, si les collines s'inclinaient, si les vallées se déroulaient, c'était non plus selon des lois purement géologiques, mais selon une loi valable dans cet unique lieu, commune aux manques et aux humains. Elle trouvait le ciel clair, les ombres d'encre, mais elle ne découvrait pas qu'elle était dans le seul district du monde qui réunit à midi le ciel de l'aurore et les ombres. Elle savait peu d'histoire. Ignorant qu'agissaient depuis 20 minutes sur son âme les coudes de fleuves les plus chargées en libertés humaines, les failles calcaires et les affleurements trias les plus imprégnés d'honneur, elle s'imaginait simplement être bien, être à l'aise, n'être pas mal en ce wagon. De fait, elle était à l'aise en la France. En réalité, elle n'était pas mal en son cœur, qui du fait était bien, admirablement bien, dans son corps soudain reposé et orné de mains, de pieds, d'organes particulièrement indépendants. Jamais elle n'avait eu des poumons, des genoux dénués à ce point de servilité. Elle se félicitait de son indifférence, qui venait de ce que tous les atomes de l'air et du pays avaient porté soudain à leur degré de tendresse, de bienveillance, et qu'il ne subsistait aucun gouffre entre aucun de ses désirs et aucun des paysages. Elle croyait à nouveau à la fatalité de son voyage, parce qu'elle se trouvait dans le sens et sur le grand chemin des conquêtes, des invasions et des immigrations, des Francs et des Wisigoths, entre Enghien et Orny-la-Ville. Elle se félicitait de son jeune âge, au moment même où le soleil la recouvrait d'un vernis millénaire, et d'ailleurs d'un vernis tout jeune, son voisin, le vieillard d'en face. Elle se disait qu'on est heureuse à peu de frais. À peu de frais, en effet. Il suffisait qu'un jour de printemps, en pleine jeunesse, votre regard, nourri depuis une heure par des églises fondées dans le roc, par des forêts nouées au fond de la terre, par des fleuves que rivent au confluent des villes murées et des châteaux forts, aperçut soudain, flottant dans le ciel, seul atome de l'Île-de-France que n'ait touché ni la grâce, ni l'intelligence, ni l'honneur, ni la tradition, touché soudain par le soleil, un pigeon. Juliette, quand le règne des animaux lui eut échappé, avait hésité entre les divers conseils que lui donnait son carnet. Retourner à l'école normale, revoir le petit botaniste, elle n'y songea pas. Il n'était pas temps encore. Certes, ses yeux voyaient mieux qu'hier les dômes des hêtres, les clématites, les jasmins. Elle les reconnaissait mal, comme vous devient étranger un visage amical qui va devenir un visage chéri. Et d'ailleurs, il est de notoriété publique que tout ce que vous allez aimer, fût-ce une plante, se plonge d'abord dans un bain d'oubli. Mais Juliette commençait à se comprendre. Elle savait qu'il faudrait 10 ans environ pour que tous les arbres, arbustes et graminées présentés par le préparateur devinssent dans son imagination ses compagnons nécessaires, et la terre son jardin. Le système de son cœur était 10 fois plus lent que le système solaire. Les platanes du Luxembourg étaient encore pour elle trop jeunes de 10 ans. Et le figuier de Roscoff et l'ombre des forêts. Il manquait encore 10 petits cercles concentriques au baobab, au cèdre du jardin des plantes. L'herbe simple avait besoin pour lui plaire d'un perfectionnement que 2 lustres seulement pourraient apporter à l'herbe. Tout ce qui est végétal n'était planté que d'hier pour elle dans le monde. Le monde n'était encore à ses yeux qu'une pépinière. Et ce frisson à la vue du petit botaniste, Ce n'était que le début de son flirt avec un des règnes de la nature. Frisson qu'elle avait éprouvé déjà, son carnet en témoignait, le jour où la vue d'un jeune élève de Naval leur avait ouvert la mer, d'un polytechnicien à la physique. Car en province, ce sont tous ces petits jeunes gens en uniforme ancien qui viennent tendre aux jeunes filles la clé d'un élément, comme la clé d'un toril. Tous échappent pour leur mise et leurs rêves l'océan et la vapeur. Elle le laissa donc à l'écureuil, qui jamais ne l'intéresserait plus, se plonger dans un catalpa que ne chérissait pas encore. Et elle ouvrit son carnet. Elle l'ouvrit à la page intitulée « Page des vices ». Et cette page était plus riche en chiffres que même le carnet de ces Parisiens irritables qui prennent pour les intimider les numéros des mauvais sergents de ville. 18 octobre 1914. Passé avec tante, salle 72, hôpital 145. Dans le lit 41, le plus beau blessé connu. Blessé pour mon usage, facilement reconnaître quand je voudrais. Trou au-dessus de l'œil gauche. Poinçon dangereux. Donnez ma main sans qu'il s'en doutât. Pas une dent ne manque. Température 39,9 degrés. Nom, Emmanuel Ratier. Véritable héros, dit Major Attente, mais le plus vicieux, ajoute-t-il tout bas, de la ville la plus riche en vices de Chantilly. Juliette relisait cette note. À cause de son style télégraphique, elle y faisait toujours l'effet d'un télégramme et l'atteignait à la vitesse d'un message. Premier télégramme à une vierge, pour lui apprendre qu'il y a des vices. 10 ans depuis qu'il était parvenu, cette gourmandise enfant, cette adolescente vanité, ces 9 péchés capitaux nains qui ce jour-là s'étaient soudain approchés d'elle, encore de sa taille, s'étaient aujourd'hui développés avec leur apparence adulte. Juliette n'était pas tentée par les vices, elle les haïssait. Mais l'image de ce héros la poursuivait cependant, vivant au milieu d'eux, dompteur plus menacé que le petit Blanche-Marine, et qu'il conviendrait peut-être de sauver. Elle ignorait que le major était d'Orry-la-Ville, bourgade ruinée par la concurrence de Chantilly, et qu'il calomniait cette dernière cité, parce que ses clients anglais l'abandonnaient l'un après l'autre, n'admettant en vrai snob d'être soigné que par le médecin de la ville des vétérinaires. Chantilly restait pour Juliette la ville des perversions. Et comme elle avait confié ce secret à ses amis, il suffisait de parler de la porcelaine, de la crème, de la dentelle de Chantilly pour faire rougir au pensionnat Fromot une classe entière. Mademoiselle Fromot, qui ne croyait pas au mal, avait été amenée, d'autre part, en raison de leur bonne nature, à présenter dans leur cours de morale les vaniteux, les luxurieux, les gourmands, comme des délégués de l'humanité voués à un minotaure. Autrefois, c'était des jeunes filles, et elles faisaient d'ailleurs valoir à leurs élèves, à ce propos, les avantages de la période contemporaine. Emmanuel était donc aussi, dans l'imagination de Juliette, un de ces êtres qui se battent pour elle sur le front de la donation. Chantilly, faisant enfin partie du front, une victime, mais de quel vice? Contre quel vice luttait-il pour l'humanité avec ses 39,9 et ses dents entières? Juliette avait essayé de le découvrir en insérant une annonce insidieuse dans l'écho de Chantilly. Jeune fille, 22 ans, serait reconnaissante à qui lui indiquera l'habitant le plus avare de Chantilly. Ainsi interrogés sur un défaut de leur prochain, justifiés dans l'emploi de lettres anonymes, 100 Chantillois avaient donné dans le piège et déversé leur haine dans les oreilles de la jeune fille reconnaissante. Ils en arrivaient de bonne foi, ainsi que l'avait prévu Juliette, partie de l'avarice, à désigner le plus vaniteux, le plus gourmand. Tant le jeu des vices est semé sur la terre comme un jeu de jonchet. Et il est difficile de retirer l'un sans ébranler tous les autres. Chaque correspondant ajoutait d'ailleurs volontairement pour se dissimuler et laisser croire que la bassesse de son âme venait de sa bassesse d'extraction, une de ces fautes de participe qu'il ignorait d'être chères à Madame de Sévigné et au duc de Saint-Simon. C'était le jour de la fête locale. Débouchant sur la pelouse, Juliette eut la fortune de voir à cheval les seuls habitants de la ville qui ne sont pas cavaliers et n'entretiennent par amitié ou par fonction aucune relation personnelle avec les chevaux. C'était l'heure où se disputait le tournoi annuel de vagues. Dans la tribune s'étaient assemblés les meilleurs starters de la société d'encouragement, les meilleurs trombes du monde, les entraîneurs patentés des écuries, les jockeys gagnants des grands prix. Mais c'était à cheval les papetiers, les cafetiers, les droguistes et un soldat permissionnaire du premier génie. Il s'agissait de gagner le sucrier et consigné dans le testament du duc d'Aumale, et du sucre était promis par les concurrents à leur monture. Ces montures étaient aussi les seuls chevaux de Chantilly inaptes à la course, les chevaux des cocassiers des entreprises de deuil, du rouleau à vapeur. Mais les spectateurs étaient les mêmes qui savaient, entre 15 anatomies de partance au derby, reconnaître le muscle trop gras d'un centigramme, le tendon surchargé, jauger la goutte de sang qui séparait deux purs sangs, deviner à l'œil, parfois au regard, les ascendants au cinquième degré d'une pouliche, et, placés devant ces haridelles, n'était pour eux qu'un gouffre sans nom d'obscurité et de servitude, au lieu de terres hippiques pour la première fois de leur vie, ils employaient le vocabulaire des ménagères, en apostrophant ces bêtes qui avaient des nez, des pattes et du poil. Tous les beaux mots de chanfrein, de Liszt en tête, de Balzane, étaient tombés de ces chevaux, comme les pièces d'une cuirasse tombent, quand ils se sont rendus indignes, les chevaliers. Parfois, juché sur une descendante de Flying Fox, un lâne s'arrêtait devant le cirque où la municipalité entretenait, comme un abcès de secours remué chaque année, ce cercle de laideurs. Alors, à ce voisinage, les chevaux de l'entreprise de deuil, choisis pour leur mutisme, et que la mort, dans toutes ses manifestations, n'avait pu pervertir, hennissaient de nos nostalgies. Violet, Juliette n'étaient pas surprises de voir tant de chevaux. Les jeunes filles n'imaginent pas les vices à pied. C'est la justice, la bonté qu'on voit plutôt sans cavalerie. Seule l'étonnait la douceur de ces bruits, en tous lieux amortis par de la pelouse ou de la forêt. Et quand sur la chaussée du roi éclatait le roulement d'un chariot, ou là-bas celui de ce rapide Bruges-Paris qui relie Memling à Clouet, elle tressaillait comme si c'était la colère, le mensonge, qui ne pouvait soudain, dans ses vallons, se contenir. Ainsi Dieu soit sursauté quand il entend soudain le péché résonner sur cette terre à herbe et à tourbe, où il a disposé les hommes pour ne rien entendre d'eux. Les vices allaient vraiment sur la pointe des pieds dans ce dimanche. Un passant la tutoya, la suivit. C'était la première fois que Juliette était tutoyée par un vice, suivie par un inconnu. Elle en eut les yeux humides. Pour éviter d'interroger ces hommes qui tutoient, elle obéit à l'appel d'un paon et découvrit le château. Elle suivit une bande de canards et découvrit la vallée et ses animaux. Toujours suivie par l'homme, elle suivit, elle, un faisan et découvrit la flèche de Senlis. Quand elle se fut rendue compte que dans ce district, plus que partout ailleurs, le moindre appel d'oiseau la conduisait à un de ces paliers, châteaux, musées ou parcs, d'où les Français dédaignent les attaques du doute et de la peur, elle prit courage et sonna à la porte d'Emmanuel Ratier. De quel vice Emmanuel était-il la proie? Ah, tout autre qu'à Juliette, l'aspect de sa maison lui révélait. Un confesseur dans sa première semaine d'exercice, au plus neuf des fournisseurs. Le péché, le pourboire que devait fournir cette demeure était visible à tous les yeux. Il y avait dans le jardin un cadran solaire et sur le fronton une horloge. L'habitant de cette demeure entendait déplaire à la fois au soleil et aux horlogers. De la maison Louis XVI, restaurée avec manie, sortait une marquise en verre, d'estor, et elle contenait avec peine une maison ultramoderne dont les appendices passaient. Le blason du fronton avait été récemment gratté et n'offrait plus que des initiales. Une petite chapelle 1830 avait été dégarnie de ses statues. Le propriétaire était quelqu'un qui avait en plein XXe siècle savouré, voilà 15 jours, les excès de la Révolution. Mais Juliette ne comprenait toujours pas. La cloche rendait un son aigre au pavillon du concierge et résonnait à l'intérieur en cascade de gongs. Des chiens se levèrent des gazons, des chiens qui n'aboyaient pas, auxquels il semblait qu'on eût coupé la langue ou retranché un sens pour qu'un autre devînt plus aigu. Juliette ne comprenait point. Puis elle vit une volière d'oiseaux muets, d'oiseaux dont la race était muette, d'oiseaux qui regardent, de volatiles qui essayent de développer, aux dépens de leur chant, leur sens du toucher ou du goût. Et surtout, tout autre aurait deviné le péché de la maison, rien qu'à un de leurs mouvements. Un bassin plein de poissons, décoré de bagues, de carpes, de tanches, qui semblaient ici seuls heureux. Mais quel vice peut bien personnifier la carpe suçant sa rivière? Un domestique, pour rien qu'avoir ce domestique, Juliette devait comprendre, un domestique à yeux tristes, à yeux qui dans le visage d'un maître eussent indiqué une série d'œils de chagrin, et qui d'ailleurs n'avait répandu aucune larme, avec des rides toutes tirées de gauche à droite, un pauvre domestique contre épreuve, la fit entrer dans un salon qui pour vous était l'alphabet du péché, la salua sans cet amour de saluer les autres, envoyé divin pour les domestiques heureux, et l'on sentait que son âme devenait de plus en plus terne dans sa livrée, de plus en plus éclatante. Il s'était fait le matin une cicatrice en se rasant. Toute sa pensée était dominée par la crainte que son maître ne vit cette cicatrice, tirée elle de droite à gauche, qui amenait la vie et l'humanité sur cette face de fantôme, à travers un cataplasme de poudre de riz semblable au dernier tissu d'une ombre, et qui allait distiller toute la journée, à chaque appel de ce maître maniaque, une goutte de sang de domestique. Puis il laissa seule Juliette, désorientée, qui s'approcha de la fenêtre, mais qui recula aussitôt, car il lui semblait soudain que toutes ces fleurs dans ces massifs avaient un sens inconnu d'elle. Il y avait sur la table quelques instruments même du vice, aussi évident que le son dans une chambre de supplice, la pince à pouce et le cric à poil. Mais Juliette ne comprenait pas. Il y avait une orchidée dans un vase céladon, un varilla aux armes de Louis XIV. Il y avait au mur le diplôme de sauvetage dans le port de Palavas, d'une petite fille nommée Madeleine Badourou. Bref, un aveu complet. Dans toute la demeure, le silence. Par analogie avec ces oiseaux sans cri, ces chiens sans aboi, les bibelots, les meubles semblaient avoir perdu leur langage. On sentait d'ailleurs la maison habitée de toutes parts. Mais c'était moins les tapis qu'un manque de densité chez ses habitants qui empêchait tout bruit. Juliette était dans une maison hantée où le spectre suçait le cœur et le sang des êtres, celui des domestiques par la cicatrice de leur rasoir. Et soudain, dans ce silence, un éclat de rire tel que Juliette comprit que c'était le rire d'Emmanuel. Elle en fut atterrée. Ce rire était un des éléments du péché. C'était une partie de son exercice même. Juliette se levait pour partir quand une porte s'ouvrit. Une femme entra. Elle aussi était rusée, craintive. De tous les vêtements, celui qui l'habillait était ce que les couturiers de l'année avaient certes cousu de plus invisible. Elle aussi portait au visage une angoisse qu'elle ne dissimulait pas sous la poudre de riz et la goutte de sang du domestique. Mais comme Lady Macbeth lave sa main, c'était son visage lui-même qu'elle lavait et relevait, relavait chaque année à grande eau froide. Elle le tendait aux yeux de Juliette, avec ses dents encore éclatantes, mais dans le blanc des yeux, apparaissait de temps en temps une velline rouge, comme un grand ver qui passait et repassait. Elle aussi, c'était la femme d'Emmanuel, on le devinait à son alliance, à son ancienne beauté. De même qu'on comprenait au visage d'Urbain, le domestique, que le cauchemar ne l'abandonnait jamais, ni en ouvrant le bain, ni en faisant les chaussures, on voyait qu'aucune action n'était pure pour elle, ni son réveil, ni le repassage de sa chemisette, ni l'achat de ses épingles à chapeau. Elle essaya de sourire à Juliette, qu'elle appela Madeleine, la vit si incroyablement exempte de péché, si vernie, qu'elle la prit dans ses bras et fondit en larmes. « Oh, madame !» fit Juliette. « Hélas, hélas !» répondit la dame. « Vous avez raison !» C'était le contraire du dialogue de ses amis qui se rencontrent et se disent « Comment vas-tu ? Et toi ?» Tant mieux. Ni Juliette ni Adam ne se doutèrent que ces deux phrases, seules conversations qu'elles eurent jamais, n'avaient aucun sens. Mais déjà, devinant une source pure dans la maison, les chiens s'étaient approchés et, au lieu de fermer les yeux sous la caresse, regardaient. C'était la première fois que Juliette voyait cela. Juliette dans les yeux. Jusqu'à Urbain qui ouvrit la porte sans raison et questionna Juliette pour entendre le son de sa voix, façon des domestiques de regarder dans les yeux de leur maître. Jusqu'au rossignol dans la cage, aveugle par ordre, qui eurent soudain le sentiment. Il fallait pour cela ce beau soleil et la présence de Juliette, non plus de la cécité, mais de la vraie et mystérieuse nuit, et qu'ils chantèrent. Jusqu'aux fleurs amassées dans le salon, qui soudain, de symbole et de comparse d'un crime, reprirent en une seconde leur innocence et parlèrent le langage des fleurs, selon le dictionnaire de la pension Fromo. Jusqu'aux objets accrochés aux murailles, sculptures appliques, qui semblaient être jusque-là le vice d'Emmanuel, les trophées que sont les cornes de bête chez un chasseur, qui reprirent leurs fonctions bourgeoises. Juliette était stupéfaite de voir cette demeure purifiée par sa seule présence. Elle se demandait de quel vice elle était l'antidote et la sainte. Elle se sentait rayonnante du radium qu'elle portait, et qui était peut-être la pudeur, ou la franchise, ou la douceur. Mais l'éclaircie ne dura qu'une minute. Emmanuel devait approcher car l'oppression soudain reprit. Oppression, malédiction d'un vice, certes supérieur à tous les autres et qui les alliait tous, car cette épouse sûrement avait été l'instrument et l'adjoint du mensonge. Ces domestiques à nom de pape, les serviteurs de la colère, ces chiens et ces rossignols, les esclaves de l'ostentation, ces fleurs, les flatteuses, du stupre. En effet, la porte double du fond à laquelle conduisaient les degrés s'ouvrit d'un deux battants. Emmanuel apparut et Juliette comprit. Soudain, tout, c'était l'orgueil. Après l'apparition dans le tabernacle, Emmanuel resta un instant immobile avant de descendre et de venir vers Juliette. Il avait un tel mépris pour le sens observateur ou le jugement des hommes, qu'après chacun de ses gestes, il laissait un intervalle vide qui leur permit de le contempler. Au lieu de poser au 50e de seconde comme les vaniteux, il posait au 25e. Il ralentissait donc sa vie à peu près d'une moitié. Chacune de ces journées comprenait, alternant avec 12 heures de vie courante, 12 heures d'orgueil physique absolu. Il en était arrivé à marcher lentement, à sourire mécaniquement. Ceux qui ne connaissaient pas son vice se distinguaient à peine d'un ataxique. À chacune de ses pensées aussi, il ajoutait cette seconde satisfaction de béatitude, et chacune était séparée de l'autre par un abîme de volupté. Le spectacle de cette vie était aussi pénible à suivre que celui d'un cardiaque dont saute une pulsation sur deux. Dans cette bouffée qui l'étourdissait après chaque geste, chaque parole, chaque pensée, il perdait le contrôle même de son corps. Et les tics, les mouvements nerveux en avaient profité pour l'envahir sans qu'il s'en doutât. Ainsi, le coq de Bruyère devient sourd dans la minute où il se gonfle et se pavane, et les chasseurs en profitent pour approcher. C'était approcher le froncement convulsif et alternatif des deux paupières, la tension avec deux saccades de la commissure gauche des lèvres, le reniflement triplé. Emmanuel, dans sa seconde inconscience, levait soudain haut le front, sans bouger les yeux, et en devenait presque caché. En somme, un corps subitement cadavre toutes les deux secondes, et sur lequel s'abattait pour le ronger, alerté par ces signaux qui attirent les vautours ou les requins, une cohorte d'instinct et de manie, une âme vide toutes les deux secondes. Voilà ce que l'orgueil avait fait d'Emmanuel. Il avait parfois un soupçon de son état. Il avait remarqué dans ses yeux amis parfois de l'impatience et parfois de la pitié. Il ne se doutait pas qu'il avait l'air alternativement d'une statue et d'un pantin. Il pensait que dans une de ses cravates, le visiteur remarquait le trou de l'épingle, tant la trame de l'étoffe en était belle. Il pensait que l'un de ses boutons de gilet qu'il allait lui-même choisir à Méru parmi 100 000 boutons semblables, avait perdu cette nacre sombre qui faisait justement leur rareté. Ou bien, plus inquiet, s'approchant de la glace, il recherchait en vain sur le reflet du superbe corps les signes de décrépitude que portait seul le second. Se voyait beau, tirait sur un cheveu qui ne cédait pas. Le même cheveu d'ailleurs que cet exercice reconstituait. Puis, rassuré, pris d'orgueil, se donnait un de ces spasmes d'inconscience et de béatitude qui ailaient du fond des siècles les tics de sultan ou de tyran aztèque, et le faisait même, depuis quelques jours, pivoter d'une pièce sur son talon droit. Tel, il s'avança vers Juliette, la prenant pour Madeleine, cette jeune fille qu'il avait sauvée voilà 15 ans à Palavas, comme vers celle qui lui devait la vie, et venait attester de son courage quasi divin en d'autres lieux que le Languedoc et les Corbières. Il la fit asseoir, la questionna, fut étonné de son langage pur. Celui-là n'est pas le premier venu qui, des flots de Palavas, trouve le moyen de sauver une fillette sans accent du midi. Il lui prit les mains, il la regarda au fond de ses yeux. Tout ce qu'elle avait en elle de clair, son teint blanc, ses yeux bleus, lui prouvait que son sauvetage avait une valeur symbolique et qu'il l'avait emporté sur je ne sais quel démon méridional. Un grand mépris du Languedoc le prenait. Subitement, il n'eut pas assez de haine pour les cheveux noirs, pour la Méditerranée. Il venait de voir les cartes de natalité. Il fut heureux que la France du Sud, avec son ail, se dépeupla. Un profond dégoût le prit de Gambetta. Il éliminait d'ailleurs peu à peu de son admiration tous les grands hommes dont la carrière avait commencé à un âge inférieur à son âge. Tous ceux dont la gloire l'avait le plus attiré autrefois, Hoche, Alexandre, le jour où il eut l'âge auquel ils étaient morts, le jour où ils furent ses cadets, ils parurent des enfants stupides et leur fortune méprisable. Il les dédaignait, il les oubliait. Son âge happait tout sur son passage, comme une lave, restreignant peu à peu et acculant à la mort le champ du génie et des gloires. Depuis longtemps, il n'avait déjà plus le souvenir de Chénier et de Néron. Parfois, Urbain devait décrocher du mur un portrait de ces hommes qu'Emmanuel avait jadis pris pour modèle, Byron, Lucullus. C'est que son maître venait d'atteindre l'âge auquel ils avaient publié leur chef-d'œuvre ou auquel ils étaient morts. Désormais, il ne laissait plus en lui que le souvenir de leur maladie, tel roi de son ver solitaire, tel empereur de sa Galle. Si bien que l'art, le passé, la science n'étaient plus guère maintenant pour lui, car il était presque grand-père, que des primes de vieillesse. Il ne se rattachait plus au roman que par le vieux de feu qui avait commencé d'écrire à 60 ans, à la science que par le vieux Fabre, à la politique que par Sylla. Il allait avoir, à la fin de cette semaine même, l'âge auquel Napoléon était mort. Toute une épopée tremblait en lui, tout un décor qui allait dimanche s'abattre. Il appréciait encore pour 24 heures Austerlitz, Wagram. Mais dès lundi prochain, il ne brocherait plus au nom de Joséphine ou de Sainte-Hélène. Il se retrouverait sans plus de souvenirs de Bonaparte qu'il en avait maintenant d'Antoine et aussi de Cléopâtre. Car, pour les mêmes raisons, il n'aimait plus les femmes, depuis qu'il n'en trouvait plus de jolies, qui fussent aussi ses aînées. En ce moment même, ayant écarté du salon sa femme et Urbain, il essayait de séduire Juliette. Il cédait simplement à un sentiment de sympathie pour l'être qui lui devait tout. Autrefois, quand il préférait son corps à tout autre corps au monde, passé ou vivant, il était excusable à demi, car il était en effet assez beau. Mais aujourd'hui qu'il commençait à vieillir, sa préférence égoïste s'accentuait encore. À cause de son front où l'irritance paraissait, il méprisait le front le plus lisse. Par amour de ses veines qui tournaient en varices, il méprisait tous les plus beaux systèmes artériels ou veineux de l'humanité. Par haute idée de son vieux foie, qu'il allait soigner tous les ans, il méprisait les jeunes foies d'athlètes exposés en exemple aux boutiques anti-alcooliques, et pas un de ses organes, viscères ou sens, qui ne le poussa à dédaigner l'organe correspondant chez la plus belle ou le plus jeune. Depuis quelque temps, c'est la fierté de son squelette qu'il éprouvait surtout. Il le comparait au squelette des plus grands poètes, des plus grands inventeurs. Son squelette était plus élégant que celui de Brummel, plus fin que celui de Descartes, plus fort que celui de Corneille. L'orgueil avait ainsi amené, hypocritement, à donner la main à la danse macabre. Il l'avait amené aussi au dégoût de la vie. Depuis qu'il avait découvert que le but de l'humanité avait été seulement de le former, de former un être un peu malade, chaque jour plus faible, il trouvait l'humanité assez méprisable. Puisque la raison de toutes ces jeunes femmes, de ces génies colosses, de ces saisons, était de l'avoir amené, lui, Emmanuel Ratier, à ce jour, l'humanité n'avait vraiment plus qu'à se taire. Créer l'être qui aura le plus beau squelette le jour du jugement dernier, Ce n'était pas vraiment une excuse à tant de médiocrité et de misère. Alors que tout vice et défaut, ou se calme par la vieillesse, ou se cherche des légataires, ou se réjouit de se voir transmis pour des siècles et des siècles, Emmanuel trouvait donc désormais, par modestie, le monde sans objet. Il trouvait inutile tant de gens et tant de sollicitudes, tant de pluie et de beau temps, l'électricité, la vapeur, le gaz. Pour Dieu, oh, Dieu l'agaçait.
Ce nom venait justement de résonner entre lui et Juliette, qui n'osait pas encore parler. Il est difficile d'avouer un orgueilleux quand on est joli, qu'on ne lui doit pas la vie, qu'on ne lui doit pas la jeunesse, la beauté. Et Emmanuel le parlait d'ailleurs en l'écoutant à peine. Puisqu'il avait un vice d'empereur, d'antéchrist, d'archange déchu, et qu'il n'avait pas de cour, pas de milliards, il était obligé de tirer de lui-même ses flatteurs, ses adulateurs, ses encouragements. Et il avait pris l'habitude de parler seul. Tel était l'homme auquel aucun des remèdes vrais ou fictifs créés par les hommes ne semblait désirable, ni la fortune de Jouvence, ni le Graal, ni Lourdes. Il trouvait que le plus grand miracle, c'était sa vie. Il s'étonnait d'être vivant, et cela lui suffisait. Un peu de rancune aujourd'hui contre Napoléon, qu'il allait ne plus aimer, qui allait provoquer dans son appartement, car il allait faire disparaître ses bustes, les tableaux de bataille, les meubles d'empire, ce changement que provoque ailleurs l'arrivée d'un nouvel amour. Il lui suffirait d'arriver à 100 ans, mort de Chevreul, mort de Fontenelle, pour que tout fût ravagé en son âme et qu'il pût inaugurer un règne terrible sur le monde. C'est alors qu'aurait commencé le vrai combat entre cet être qui l'agaçait, Dieu, pour tout dire, et lui. Combat qu'il n'avait pas eu l'occasion de préciser encore dans sa pensée, car il n'était pas philosophe. Les hommes étaient dans sa famille marchands de père en fils, de bielles à vapeur. Entre lui et Dieu, c'est alors qu'il eut sa première interruption plus longue de respiration. Il devint exsangue, s'étendit les yeux fermés sur un fauteuil. Juliette s'enfuit. Sur le palier, elle croisa la vraie Madeleine de Paraverse, souillon brun, qui arrivait avec une malle, qui boitait, dont les convulsions avaient détraqué le visage, qu'Emmanuel allait trouver à son réveil dans le salon, et insulter, résidu honteux de sa vraie Madeleine. Chapitre 4e. Chaque jour, son carnet dirigeait Juliette sur un quartier différent de Paris. Ce n'était pas de sa part une rébellion contre l'étroite destinée réservée à chaque jeune fille. Au contraire, elle entendait vérifier tous ces possibles qui déplacent parfois tellement loin les bornes sur les bas-côtés de notre existence. Seul le sens de notre vie nous mène à la mort. Toute marche en travers est infinie. C'était cette marche que faisait Juliette en ce moment. Vérificatrice de l'irréel, de l'inimaginable, du non-révolu, Juliette s'étonnait de retrouver les êtres qu'un de ses désirs d'enfant avait attirés un quart d'heure à l'existence, emportés désormais par l'âge, soumis au contrôle des concierges, et marqués, pour qu'elle n'eût pas de doute sur leur qualité humaine, d'une dent d'or ou d'un coryza. Quel gaspillage du sort! Pour que Juliette pût épouser ce qu'il y a de plus simple et de plus facile à concevoir, un jeune rentier intelligent et beau, le sort avait dû créer une 30aine d'hommes, les jeter dans des métiers spécialisés et inventer, car c'est le seul point sur lequel aucun homme ne ressemble à aucun autre, 30 modèles de jartels. Certains étaient mal nourris par lui, et Juliette en souffrait. Certains avaient perdu au feu une oreille ou la jambe. On saurait imaginer dans quelle large mesure les possibles ont pris part à la dernière guerre. Certains aussi s'apprêtaient peut-être à lui être infidèles et chez eux le thé était prêt. Témoin, l'archéologue. L'archéologue était Jean d'Audina. avec lequel elle avait déjeuné le jour de Pâques 1910 chez les Servan à Aigueperse, et que Madame Servan avait guidé après le déjeuner jusqu'en sa propre chambre pour le consulter sur un trésor qui sonnait dans le plancher. Ce trésor était un sou, un simple sou de Chigny, mais il leur avait fallu 1 heure pour l'extraire. Quand il redescendit, Dodina avait le ventre plein de poussière, comme ceux qui s'unissent à la terre même, mais du fait qu'il avait refusé d'accepter le sou, qu'il avait rougi, l'avait accepté, rendu encore, certains avaient deviné que ce sou était le prix de Madame Servan. Jamais jolie femme ne parut d'ailleurs plus heureuse de s'être donnée pour un sou. Juliette avait alors 10 ans, et Dodina ne le reconnut point quand elle pénétra dans son entresol. Il habitait quai Malaquais, au-dessus de 2 antiquaires, et dans aucun humus de capitale et de civilisation archéologue n'aurait pu réussir fouille plus riche que Jean Dodina en creusant simplement un trou dans son parquet. Il prit Juliette pour Mrs. Bates, la veuve assyro-chaldéenne de l'agent consulaire d'Angleterre à Urmia. Il devait lui apporter cet après-midi-là un plat sassanide en or massif. Il réservait toutes ses facultés critiques pour le plat. Il avait déjà des motifs sentimentaux d'attribuer à l'âge d'Ardachi et non à l'âge de Saint-Paul. Il ne lui restait plus de perspicacité disponible pour lui permettre de voir que Juliette n'était pas née en Assyrie. Au contraire, Juliette, possédant un œil bleu et un œil brun, il eut immédiatement à l'esprit les chats d'Ezroum, qui ont un œil bleu et un œil gris. Et il haussa instinctivement la voix, les chats d'Ezroum étant sourds. Toute une demi-heure, il attendit patiemment que la visiteuse chatte sortit le plat de son manteau, de sa robe, de son chapeau, et sans prononcer une parole pour le réclamer. Car il savait de quelle horde cupide tout plein d'or sassanide est escorté jusqu'à notre ère, depuis le siècle où il fut fondu, à travers l'Asie et l'Europe, les descendants des démarcheurs épiant et harcelant à travers révolution et peste les descendants des possesseurs, le petit-fils de celui que Madame Dieu la Foi avait chargé de le conquérir à prix d'or liant, parti avec l'arrière-neveu, celui auquel Potemkin avait prescrit de le prendre au prix du sang, les deux clans se composant selon la civilisation et l'époque, ou d'être faibles et doux, ou d'être cruels, ou de bandits autochtones, ou d'envahisseurs passagers, ou, après trop de forts massacres, de femmes, mais le plat subsistant entre eux, respecté et envié d'eux, comme l'étalon de toute richesse et de tout honneur. Dodina avait placé Juliette le dos à la fenêtre, de sorte qu'elle ne voyait ni le Louvre ni la Samaritaine, monument qui pour Dodina était chronologiquement presque des jumeaux, mais seulement une vitrine dont le contenu seul devait avertir Mrs. Bates qu'elle n'avait pas à conter d'histoire sur son plat et qu'on saurait ici l'identifier. Car cette vitrine renfermait les reproductions en étain des vases retrouvés dans l'île de Lolland, signés de Kérissophos, que le soleil à son déclin illuminait, autant que l'étain souffre d'être illuminé et affecté par le couchant. Ainsi, Mrs. Bates, sans être froissée, pouvait comprendre que l'on était au courant, qu'à Malaquais, des émigrations suspectes de plats romains vers le pays des Normands ou des Parthes, et que l'on saurait découvrir à la première auscultation de cet or si c'était une vraie assiette de Saint-Paul ou une de ces banales imitations de Philoctète données, comme la moindre lecture d'Hygiène ou de Dion la démontre, en Resdos Typos 2 par le Caracalla. Or, Juliette voyait seulement, au fond de la vitrine, le sou du Chili, énigme dont elle seule avait la clé, et elle comprenait, après 13 ans, la vraie histoire du trésor Servant. Il était là, ce sou du Chili, parvenu dans Paris, non pas comme le plat sassanide, grâce à une suite de conjonctions entre rois et padishahs,
de mariage entre vierge persane et conquérant moghol, mais au contraire à la faveur des plus humbles trafics de la vie, par une suite de vils négoces roulant sur des souliers à cirer, des bananes non fraîches, des cornets de tabac à briser, jusqu'en cette tirelire qui était la vertu de Madame Servant. Et le soleil dorait toute cette place du ventre de Dodina, couverte jadis de poussière. Car si la visiteuse s'obstinait à ne point sortir le plat sassanide, d'elle venait de s'évader le soleil, arrivé presque à son déclin, qui enveloppa d'un nimbe sa tête, disparut dans son dos, permettant à Dodina de contempler tout ce qu'on peut trouver de perçant et d'antique sur une jeune auvergnate assise de haut soleil. Plat sassanide, soulier du Chili, soleil, monnaie d'échange pour 3 heures de pensée et d'amour, jouèrent ainsi quelques minutes entre eux dans un muet jonglement. Puis Dodina, impatient, se surprit à regarder avec tant d'insistance ce corps auquel un médecin ou sculpteur pouvait faire rendre, mais où, un écho argentin, qu'il rougit et n'osa plus regarder que le visage de Juliette. Tout cet antique respect envers un trésor, cette vénération transmise depuis 20 siècles envers les plus précieux alliages, Juliette la prenait pour la politesse réservée par les Parisiens aux jeunes filles de la province et en jouissait. Le regard de Dodina, d'ailleurs, se dérobait devant le sien. Elle aurait pu le croire faux si elle n'avait su qu'il avait passé 2 années de sa jeunesse au sortir de l'école d'Athènes à regarder en face les dieux grecs qui, justement, sont privés de prunelles et de regards. C'est à Dodina que nous devons l'ouvrage où est décrit dans la sculpture grecque classique le passage de l'impassibilité des dieux à leur souffrance, avec des dates exactes où un sculpteur s'avisa d'introduire la crainte du chatouillement dans Junon, le doute de soi dans Jupiter, le mal du pays dans Mercure. C'est Dodina qui lâcha, selon l'expression de Villamovitz, les rats et les souris dans l'Olympe. Dieu sait combien de fois Dardina débarqua en Angleterre, aux époques de Fashoda, pour aller aux British dévisager l'angoisse dans l'Apollon pour Thalès. Combien dévisagé lui-même par les douaniers, inquiet d'une sérénité aussi complète dans les traits d'un de ses voyageurs français, tellement prompt aux gestes et aux imprécations. Que de fois il partit pour Rome, après un rêve qui le lui avait montré consolé, contempler l'Apollon du musée Banaco, l'Apollon qui pleure, ému lui-même aux larmes de la douleur du dieu. Que de fois il partit pour l'Autriche, la Grèce, l'Espagne, pour chaque musée ou champ de fouilles d'où lui avait été signalé un chagrin, une inquiétude, fut-elle légère comme la crainte de la pluie ou des guêpes sur un visage olympien. Avec sa petite valise de spécialiste du cœur, qui le faisait prendre dans l'Orient Express pour le médecin qui allait ausculter Venizelos, Abdulhamid ou M. Kapp, et surnommé par les archéologues ses confrères le pédicure des dieux. De quel élan il s'embarqua pour la Crète quand il fut annoncé la découverte d'un Olympe crétois à visage passionné. Quel échec pour la sculpture classique, quelle honte pour Phidias, pour Praxitèle, s'il était prouvé qu'avant eux, tout l'univers avait pleuré ou souri et qu'il n'était plus que des faiseurs de masques. Il accourait, dédaignant jusqu'aux formalités nécessaires pour l'obtention d'un demi-tarif Paris-Marseille, ce qui lui valut une série de regrets au retour, se précipitant dans le hangar où les statues étaient couchées, leurs visages recouverts d'une bâche destinée à les cacher aux oiseaux et aux rats, comme de vrais cadavres. Bâche mortuaire qu'il souleva avec la tendresse d'une femme de mineur après le coup de grisou, apportant dans l'Olympe souffrant toute la sympathie d'un noble cœur et de l'école des Chartres, et quelle désillusion! Car la tête de Jupiter pleurant était toujours celle de quelques centaures tirés par la queue, Le rictus de Vénus, c'était les flots qu'il avait creusés, grattant, selon le mot de Garoby, l'œuvre de leur écume. Parfois, le nuage d'inquiétude ou de romantisme dénoncé à Dodina par une lettre anonyme sur Hercule ou Neptune, car dans toute l'Europe on connaissait sa manie, subsistait encore à son arrivée, mais c'était un jeu de la lumière et de la poussière, et ces clichés donnaient au développement un visage presque souriant, et tel que les cieux eux-mêmes le doivent aux photographes. Si bien, excédé aussi par la plaisanterie des collègues qui avaient modifié au plâtre les statues de Naples pour le berner, qu'après avoir juré de trouver au moins une souffrance par Dieu, il ne lui restait plus d'indéniablement douloureux que la tête de l'Apollon pour Thalès et celle de l'Apollon Baracco. L'appréhension des barbares, la préscience du christianisme, la crainte même des archéologues n'avaient amené que ces deux froncements de sourcils, ces deux légères fluxions sur le visage de la Grèce, et avide tout d'un coup de maxillaires tendus, d'arcades sourcilières creuses, de bouches ouvertes sur des amygdales, dont le visage exprime toujours quelque chose, disait-il avec le langage hardi de ceux qui ont supporté 2 ans un salon solennel, car un lion au moins leur mord la fesse. Mais que de souvenirs passionnés lui restaient de sa première vocation. Cette sortie du British Museum un jour d'hiver, il ne semblait pas différent des autres jours et où toute la foule, ayant acquis dans la nuit il ne savait quelle divinité, qui était la défaite de Johannesburg, avait un visage impassible et des yeux sans prunelles. Foule divine qu'il n'avait pu retrouver qu'une seule fois en France, voilà 10 ans, un jour de moisson d'été. Ce voyage à Délos, ses espoirs insensés sur la sensualité de Cérès, partagé d'ailleurs par Tiraboche, ce hangar où il était resté tout le jour face à face avec la fille de Cybèle, n'obtenant de ce visage qu'on lui avait annoncé voluptueux que ce que peut donner un cadran solaire, une ombre tournante, l'annonce en somme de notre mort. Et soudain, à la porte même, il avait vu renverser par un tilbury une paysanne qui ressemblait à s'y méprendre à la statue. Elle criait à rendre l'âme. Elle avait été à peine effleurée. Le conducteur et propriétaire du tilbury, M. Acrobatios, encore qu'il fût retombé durement sur le coussin de buis, n'avait pas même perdu son gibus. Mais elle poussait des cris, agitant les jambes, comme si, las de s'être contenue toute la journée et sous les yeux du savant français, elle se donnait enfin à son délire. Ce jour enfin, à la sortie du musée de Copenhague, où ses yeux, qui avaient erré 8 jours sur 1000 lieues de marbre et n'y avaient trouvé dans tout qu'un iris, avant qu'il ait eu le temps de changer un regard de savant pour son regard d'homme, dans son visage de jeune fille rencontrèrent soudain 2 yeux. C'était en fait, Dieu humain, la paire qui se rapprochait le plus des yeux des statues, incolores, indolores. Et il épousa Olga Kintegrad, élève de Müller III, qui la dirigeait alors sur l'expression des vœux dans l'art populaire chinois. On ne sait dans quel but hypocrite, car il était de notoriété que Granet pâlissait déjà sur cette étude. Il la revit chez Müller, et le lut pour une fois sur un visage occidental l'expression d'un vœu distingué, l'exauça, mit au monde un petit enfant qui n'ouvrit jamais les yeux, et mourut d'elle aussi. Telle avait été la fortune de Dodina, qui en ce moment humble attendait de sa visiteuse l'obole de 3 millions. Juliette sentait confusément qu'il y avait entre eux quelques malentendus. Ce drapeau rouge à scarabée d'or, qui s'était procuré à grand-peine auprès de la délégation assyro-chaldéenne, dont il avait pavoisé la pièce en l'honneur de Mrs. Battles, elle sentait bien qu'il était une allusion, et elle cherchait vainement laquelle dans son passé. Lorsque Dodina s'excusa avec un sourire d'avoir trop aimé Darius, trop peu Nabucodonosor,
Elle sentit qu'il y avait une raison à cette excuse et ne put la découvrir en elle. Mais bientôt, pas une de ces caresses de langage qui valaient pour une femme d'un autre continent, d'un autre âge, d'un autre climat, qui ne l'atteignit au cœur même, friandise inconnue. Voilà la langue que l'on goûtait chez les archéologues. Voilà la langue qu'ils parlaient, surgissant des tombes comme des ressuscités. Un langage chiffré qui leur permettait de saisir l'âme des femmes à travers des couches épaisses du passé. Quelle est douce la parole qui vous atteint, matelassée des siècles. Par quelque délicate attention, cette minute de passé commun qu'ils avaient eue dans la salle à manger des servants. Dodina, sans doute, s'amusait, privilège de son art, à la muer en long règne d'une camaraderie bordée par le frat et le tigre. Elle acceptait le jeu. Il peut à la rigueur se produire que deux amis adoptent l'assyro-chaldéen pour se parler de leur enfance. Chaque arbre, chaque animal d'un continent n'est en somme que le chiffre de l'arbre et de l'animal des autres. Autant prendre le chiffre le plus beau et le plus vrai, le chiffre biblique. Ce long éloge qu'il fit du palmier qui couvrait la Chaldée du temps d'Hérodote, il pénétrait en elle comme le plus grand hommage rendu jamais aux ormeaux d'Aigle-Perse. Ces deux minuscules taureaux ailés, en plâtre d'ailleurs trop frais, reproduction des taureaux du Louvre, qu'il avait postés de chaque côté de la porte, elle se crut obligée de les caresser. Et quand il lui prit sa main, blanchie à l'intérieur par les génies, en affirmant qu'après tout, il se pourrait fort bien que les Assyriens fussent les créateurs de la voûte, quand il loua les deux revêtements assyriens, l'albâtre et le gypse, quand, avec la certitude qu'elle savait lire comme toutes les Chaldéennes dans les étoiles, les astres, il lui parla de son avenir et de sa mort, Juliette se trouva finalement transportée au bord de ce qui lui semblait le désert ou l'océan, ou l'Asie, qui était simplement l'histoire. Tout ce que Juliette connaissait de l'Antiquité lui semblait soudain revenir, non de sa mémoire, mais de son souvenir. Et quand, s'approchant plus près encore, il lui baisa doucement le poignet, en répétant le mot du professeur de la Borde, d'après lequel l'art assyrien n'a ni enfance ni vieillesse, cela elle le comprit. Elle comprit qu'il la trouvait jolie, douce, périssable. Une larme coula de ses yeux. Et il fut bien dommage, se dit Dodina, qu'elle n'eût pas sorti le plat sassanide pour la recevoir. Il la plaignit de son voyage si long, si rigoureux, car il pensait à l'anabase que Mrs. Bathurst avait commencé disparant à la recherche de ses compatriotes, rebroussant sa route à Vannes devant la première barde cosaque, à Esroum devant la première sentinelle à Fès, à Bagdad devant la première casquette anglaise. Car ces soldats appartiennent à trois peuples qui fouillent les femmes, et le plat eût été volé ou confisqué. Juliette approuvait de la tête, croyant qu'il faisait allusion à l'obligation pour les gens d'Aigle-Perse d'aller prendre l'express à Clermont-Ferrand, où il y a 2 heures perdues, complètement perdues, à perdre devant Notre-Dame du Port, devant la maison de Pascal, arrêt trop court même d'une heure pour voir pétrifier un objet dans la fontaine pétrifiante. Il la félicita de son talent pour la danse, car il avait lu le rapport d'Aga Iskios sur l'arrivée de Mrs. Bathurst sur la route en course en plein désert, quand elle entendit enfin derrière elle un groupe de palmiers retentir l'instrument spécial aux Assyro-Chaldéens, en l'espèce le clairon que le sergent Ischios Lanos avait rapporté de la Légion étrangère et qui sonnait chaque soir sur le pays du déluge, le couvre-feu. Sur le bal donné le lendemain, au bord même de l'Euphrate, au son des pistons et théorbes, quand Mrs. Bathurst dansait si mollement, alourdie par le plat, qu'Agapalos la crut enceinte, ainsi que l'étaient presque toutes les femmes échappées aux Turcs, et que le camp la soigna et la respecta
comme si elle portait un fils, un de ces petits assyro-chaldéens si rares maintenant. Elle se contentait en fait de porter, non point en elle, mais imprimé en creux sur sa peau par le plat, le roi Khushru, son cheval et un abondant gibier. Il la félicita de la politesse de ses compatriotes, car il pensait à Agas Métios, qui avait publié Aimer la France à cause de son parler agréable et de sa personnalité sympathique. Et Juliette accepta l'éloge, car elle pensait à son compatriote Pierre de Nexon, qui poussa si loin la courtoisie envers Marie de Méry, qu'il dut pour la venger se consacrer à insulter la mort. C'est seulement quand il lui prit les deux bras et insista pour voir l'empreinte du roi Khushru qu'elle ne comprit plus, que tout s'expliqua, et Odina sut alors que cette jeune fille lui rapportait non un plat, mais un jour de sa jeunesse. Elle lui montra le carnet. Elle lui lut la page du 12 mai 1910. Oh, Dodina se rappelait à peine leur rencontre. Ce jour de printemps dont Juliette avait noté jusqu'à la température, il fallut que son imagination le déterrât d'au-dessous de toutes les époques qu'il avait depuis habitées, de la période crétoise, de la Talide, de la Sassanide. Dans ce jeu de balançoire autour de la naissance du Christ, sa tête tournait parfois. Cet an 1910, c'était un âge séparé du sien par un humus de temple et de dieu. 20 nécropoles l'isolaient des Perses. Ce beau soleil auvergnat qui, d'après le carnet, inondait ce jour-là la Limagne de 31°3, lui fallut le retrouver au-dessous d'une pile d'autres soleils. Soleil de Délos, soleil de Ravenne, soleil de Naples, au-dessous de tout ce service pour savants heureux et soudains, un peu ému, au-dessous du cupiculum de la couche du hamac chaldéen, il retrouva le lit de Madame Servant. Juliette lui nommait, lui décrivait lentement les invités de cet après-midi fameux. Elle sentait confusément qu'elle aidait Dandina à se débarrasser chaque objet, chaque plat, chaque visage auvergnat, de tous ces synonymes et ces rouilles antiques dont chaque année écoulée les avait pour lui découverts. Fontaine pétrifiante que la science de Dodina. Cette vibration forcenée que l'étude archéologique donne à l'atmosphère du monde entier, elle la calma peu à peu. Et soudain, les ailes de l'archéologue s'écartant, Hormuz et Zeus et Sopor s'évanouissant sous la parole de Juliette comme les rêves au cinéma, il aperçut le notaire, le percepteur, le médecin de Perse assis solidement autour d'une table à rallonge éclatante de linge damassé et immobile. Retirés de ses fouilles, au lieu de perdre leur couleur, ils étincelaient et Juliette indiqua qu'il n'était même pas mort. Ce jour de Pâques 1910 devint soudain pour Dandina, avec ses bourgeois et ce vin gris dans des bouteilles de Saint-Galmier, la toile de fond de toute antiquité et de toute sagesse. Il se souvint de cette petite fille qu'il avait guidée, Antigone sans nulle patine d'un futur voyant, dans cette ville qu'il ne comprenait pas alors, car il n'avait fait encore aucun relevé de citadelle, aucune reconstruction de cité. Sa spécialité maintenant, mais donc soudain. Oh, la science vraiment sert à quelque chose. La raison et le plan lui apparurent en trait de feu. Aidé par le nom des convives, par la vision de quelques pierres historiques aperçues ce jour-là, par le souvenir des simples façades, tout ce que son œil avait inconsciemment enregistré lui revint, et il se mit à lire maintenant sur Aigueperse comme sur un palimpseste. Aigueperse se reconstruisait toute seule dans ses pensées, bientôt au sein de ses murailles. Le Mantegna que Juliette lui avait montré dans l'église, lui abonnait soudain quelque part, c'était une étape sur cette route empruntée par les rois de France à leur retour d'Italie, et semée par eux d'innombrables cadeaux, qui finalement, eux aussi, arrivaient d'un jour au Louvre, avec un retard de 500 ans. Ces bornes à chaîne à goupilles sur laquelle la petite Juliette s'était balancée, c'était, oh, il n'y avait pas le moindre doute, la goupille était du 15e. Les poternes de l'hôtel Marillac. Dodina achevait avec ravissement cette version alors incomprise. Il lui suffit de revoir en imagination l'encorbellement des Dupuis pour repérer l'emplacement de l'hôtel des Bourbons, le heurtoir des Durand pour reconstituer la maison Michel de l'hôpital. Il lui parut soudain indubitable que les arbres du Prémoncieux, ce quinconce supposait un jardinier du XVIe siècle, dépendaient autrefois du château d'Effia. Aux yeux émerveillés de Juliette, il fit surgir un palais de la perception, un four banal de l'épicerie Potin, une ébreuserie du garage. Sur le canevas de la cité, tous les âges se mirent soudain à rôtisser. Oui, cette niche à bandes moulées dans la chambre d'hôtel, elle était un indice d'influence lombarde, il n'y avait pas à en douter. Elle joignait la Limagne à Milan. Oui, le croisillon au sud de la chapelle était d'influence bourguignonne et joignait Rio à Charlieu. Oui, de tous les points créateurs de l'Occident, comme au bout des bras d'une machine à écrire, une marque venait imprimer sur aigue perse le chiffre indélébile d'un siècle. Dodina se rappelait aussi sa promenade avec Juliette dans les saules, l'ascension dans le volcan éteint. Et par analogie, appliquant les méthodes de l'archéologie à l'interprétation du paysage, il comprenait pourquoi Aigues Perse avait donné naissance à la fois au poète le plus idyllique de France, à Jacques Delisle, et à Pierre Nesson, poète de la mort. Et son imagination ne se contenant plus, escaladant les buttes autour d'Aigues Perse, qu'il avait alors dédaigné de son autocar, il devinait la situation des châteaux disparus par leur position même, devinait leur âge, par leur rage combinée avec leur nombre total, l'histoire même de l'Auvergne. Il comprit soudain pourquoi Louis XI s'y était réfugié. Il comprit la tour noire et blanche de Cusset. Et soudain, à cause du château de Virmeux dont les balustres lui rappelaient ceux de Frédéric Borde, il pensa à Olga Kierkegaard et se mit à sangloter. Mais c'est alors que Mrs. Bates arriva. Cette fois, c'était bien elle. Dès l'antichambre, elle avait aperçu les taureaux ailés et elle entra dignement par cette porte royale. Puis elle salua son drapeau. Puis elle s'assit à côté de Juliette. L'archéologue contemplait les deux femmes, poternes si différentes de l'humanité, châteaux si contraires de l'âme, qu'il renonçait pour ce soir à saisir le plan du cœur indo-européen. Mrs. Bates avait d'immenses prunelles, des narines béantes, des lèvres distendues. La bouche de Juliette était petite, son nez imperceptible. Celle-là avait évidemment pour mission d'accepter par ses sens le plus possible, et celle-ci le minimum. Un seul rayon atteignait juste l'iris de Juliette. Le monde visible n'appuyait sur elle que par ce poinçon. Aux prunelles de Mrs. Bates, la moindre lueur se collait pour la journée, au blanc des yeux surtout, et elle l'en secouait vainement. Mrs. Bates avait une allure de serpent court et gros. Ses jambes fendues, si nécessaires à Juliette pour enjamber, pour nager, pour ruer la nuit contre la cloison. Mrs. Bates n'en avait nul besoin. Mrs. Bates n'avait pas avalé de placisamide, comme on était tenté de le croire, avoir sa bouche fendue aux oreilles. Mais elle parla de Paris avec des soupirs, des hoquets, comme si Paris était depuis son arrivée récente à l'intérieur d'elle-même. Ah, que la tour Eiffel lui faisait mal. Oh, que la maison de l'avenue MacMahon lui pesait. Oh, que la colonne Vendôme lui faisait du bien. Elle parlait des monuments comme nous parlons des cachets d'aspirine, de la cocaïne et de l'opium. Le Louvre, magasin, faisait frémir ses narines. Le Louvre musée chavirait ses yeux. Elle était là, aspirante et cuvant, pour ce corps que ne fécondait plus hebdomadairement le défunt agent consulaire, toute la vertu médicinale de Paris. Parfois, oh, c'était bien un serpent. Le serpent d'Ève était une femme. Elle repoussait d'une contraction de l'œsophage l'arc de triomphe jusqu'à son cœur. Et soudain, tournant la tête vers le fleuve, elle aperçut, déjà dans l'ombre, Notre-Dame. Notre-Dame, pour la première fois. Face à elle, elle l'attira de ses yeux luisants, sifflant à peine, préparant sa salive. Mais heureusement, la nuit tombait, et la vaste nef, sauvée par les ténèbres, recula doucement s'adosser au Bellegarde. Le crépuscule gagnait dans la chambre les taureaux, les collections, ces êtres de races différentes, et il les submergeait avec une modestie d'éternité. Juliette se sentait légère et surnagée sur des siècles. Un bec de gaz s'alluma sur la verge, atteignant du même éclat un poisson endormi et la tête de Nodina. Juliette voyait cette tête isolée. Il est touchant d'avoir pour la première fois le sentiment de la vie humaine sur la tête coupée d'un archéologue. Elle se leva, elle sentait qu'il convenait de laisser seule Mrs. Betts et cette tête que les pattes d'oie couraient d'ailleurs de caractère chaldéen secret pour elle, comme on laisse Salomé de seule avec celle de Yokaman. Elle sortit toute blonde de Mrs. Betts comme un éclair d'un diamant noir. Mais à peine au bas de l'escalier, elle entendit un bruit éclatant. C'était Mrs. Batters qui laissait le plat d'or choir de ses jupes, et le quai malaquais résonna du joyeux accouchement.